France Inter.
Mon personnage principal, ou en tout cas ce par quoi je commence, et sans cela aucun de mes textes n'existerait, c'est le paysage et c'est le lieu. Je ne peux pas commencer à écrire une histoire si je n'ai pas un lieu qui est plus solide et plus fort que les personnages qui vont habiter ce lieu. Et moi, j'ai envie, en écrivant, que les lecteurs et lectrices oublient à quel point les personnages sont prisonniers d'un village, de collines, de montagnes, de carrières de pierre. Je suis beaucoup plus touchée par les lieux que par les gens qui les habitent.
Cécile Coulon vient d'écrire un très beau roman dans lequel un enfant défiguré est caché pour éviter d'être maltraité. La liberté, il l'éprouve quand la nuit tombe, libre, dans la forêt sombre, où personne ne le voit, du moins le croit-il, la forêt qui deviendra un lieu d'émancipation. Bonjour Cécile Coulon.
Bonjour Vincent.
Le livre paraît à l'Iconoclaste, c'est Le visage de la nuit. Je n'oublie pas que vous êtes poète aussi et que votre dernier recueil s'intitule « Retrouver la douceur ». Au castor astral. Votre invité, lui, n'a aucun problème au visage, il peut sortir le jour et dormir la nuit. Bonjour Frédérica Bergel.
Bonjour Vincent Josse.
On vous connaît plusieurs passions, au moins trois, la marche, la course et les maths. Enseignant-chercheur en mathématiques, c'est votre profession, et peut-être devrais-je ajouter une passion naissante, l'écriture, car vous venez de sortir votre premier roman Après la neige, quelque part en Alaska, en plein réchauffement climatique. Que se passe-t-il ? Bienvenue dans le Grand Atelier.
France Inter. Le Grand Atelier. Vincent Josse.
Cécile Coulon, romancière, poétesse, sportive, marcheuse, coureuse, autrice d'une thèse sur le sport et le corps dans la littérature française contemporaine. Vous êtes allée jusqu'à la soutenance ?
Pas du tout. Et avec un grand plaisir, pour une fois, ça, m'arrêter en chemin a été un grand plaisir.
Ah bon ?
Oui, parce que j'ai préféré continuer à courir plutôt que de continuer à parler de ceux qui ont parlé de ceux qui courent.
Pourtant, c'était un sujet passionnant.
C'est un sujet passionnant. Il y a beaucoup de choses à écrire, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à voir aussi, à ressentir. Mais même si j'adore raconter le corps en train de faire du sport, il y a quelque chose dans le mouvement que je vis qui est presque impossible à décrire, on se loupe toujours, on manque toujours une émotion.
Ben, il faut chercher encore.
Ben, écoutez, j'ai des quelques années devant moi.
C'est vrai.
Figurez-vous.
Dit-elle en regardant droit dans les yeux.
Donc je vais essayer d'aller au plus près de ce geste-là, en tout cas.
Juste pour en finir avec cette thèse qui ne s'est pas faite, qui est encore à écrire peut-être un jour, dans vos vieux jours, après les romans, après la poésie, ou même en même temps, est-ce qu'il y a un auteur en particulier auquel vous pensiez ?
J'ai beaucoup pensé à Paul Fournel, qui a beaucoup écrit sur le vélo, sur la course cycliste. J'ai évidemment pensé à Lola Lafont et sa petite communiste qui ne souriait jamais. Je me suis beaucoup appuyée sur ce texte-là et j'ai découvert la vie de Nadia Comaneci à travers ce texte-là.
Tout en étant un texte de fiction. Hein.
Tout en étant un texte de fiction avec une écriture incroyable, fiévreuse, très précise.
C'est un très grand livre.
Très grand livre. Mmh. Et je pense qu'il faudrait qu'on le relise aujourd'hui. Il est sorti il y a quelques années déjà. Et c'est vraiment, je pense que ça dit énormément du rapport qu'on a nous aussi aujourd'hui aux sportives et aux sportifs. La différence qu'il y a entre ce qu'on voit, ce qu'on imagine et la réalité.
Vous parlez beaucoup déjà de mouvement, à peine l'émission commencée, de sport, de nature. Ça, c'est Cécile Coulon aussi. Il n'y a pas que l'écrivaine devant sa feuille.
Alors, devant son ordinateur, en plus, pardon, j'ai arrêté la feuille, je suis passée à l'écran. Je crois que je ne sais pas faire vivre un texte autrement que par le corps, que par le souffle, que par le rythme, que par la foulée. Et je crois que Frédéric ici est d'accord avec moi sur l'importance de la marche et de mettre un pied devant l'autre, que ce soit en marchant ou en courant, pour que le mot soit à sa juste place, pour qu'il sonne bien, pour le trouver aussi, pour le chercher, quoi. Il y a quelque chose dans la recherche du geste sportif, quelque chose aussi de la recherche du langage.
On parlera d'écriture et de marche, Frédérica Bergel, parce que je le disais, comme Cécile Coulon, vous êtes un peu cousin, vous aimez autant marcher que courir.
Oui, alors je marche, je pense que c'est l'activité primordiale, on commence tous à marcher, donc je marche depuis toujours, et comme beaucoup d'écrivains et comme beaucoup aussi de personnes qui travaillent de leur cerveau, dans le milieu de la recherche, les gens marchent beaucoup. Par exemple, j'aime bien citer Adamar, qui a écrit dans les années 40-50, c'est un grand mathématicien français, qui a écrit un livre sur la création en mathématiques. et qui disait que les idées venaient, en général, en se promenant tranquillement, et tout à coup, une idée faisait place. La marche, c'est une sorte de grand ami, où le cerveau se secoue un peu, les scories tombent, et il reste des... Alors, des pépites, pas toujours, mais des choses, en tout cas, dont on aimerait faire quelque chose.
Donc, on pense beaucoup quand on marche ?
On pense sans y réfléchir. C'est-à-dire que le cerveau travaille, mais ça n'est pas conscient nécessairement. On n'élabore pas une pensée consciemment en marchant, en tout cas pas moi. En revanche, des pensées jaillissent, parfois elles s'articulent, des idées aussi jaillissent, en recherche comme en création littéraire.
Est-ce qu'il y a des équations qui viennent dans votre cerveau ?
Alors, il y en a eu, pas mal. Pour moi, les mathématiques, c'est un langage et mon goût pour la littérature, il est assez proche de mon goût pour les mathématiques. La condensation, le fait d'exprimer des choses de manière extrêmement complexe avec peu de moyens, donc quelque chose de l'ordre de la poésie. Et ce qui est intéressant, c'est que on est nombreux à marcher.
Ils se regardent là tous les deux.
Bon, parce qu'il nous arrive de marcher ensemble.
Oui.
Et lorsqu'on passe à un niveau supérieur en effort, en courant ou en faisant des choses un peu extrêmes dans lesquelles le corps s'épuise, il y a autre chose qui arrive et qui pour moi est important, c'est la sensation. C'est-à-dire que j'aime bien écrire sur les sensations. Pour moi, c'est un peu le point de départ, hein. En général, Cécile, tu as parlé des lieux. Moi, c'est plutôt au contraire les personnages dans des lieux, mais c'est les personnages et l'intériorité des personnages. Et les sensations fortes qu'on obtient lorsqu'on fait des choses, par exemple faire des longues distances en courant ou des expéditions un peu engagées, eh bien ça donne des sensations qui sont difficiles à obtenir dans la vie de tous les jours et qui m'inspirent.
Et vous disiez que le corps était au cœur de vos romans, et peut-être aussi de votre poésie, Cécile Coulon, c'est vrai, le corps, et puis la puissance de la nature, qui est là aussi, on s'aperçoit que nature et corps sont déjà présents dans Noir Volcan, et sont à nouveau présents dans le recueil de poésie, Retrouver la douceur.
Tout à fait, parce que je crois, alors j'ai eu la chance, enfin je pense que c'est une chance d'exercer mes muscles d'abord dans un espace naturel pendant les 20 premières années de ma vie.
Vous étiez en Auvergne ?
J'étais en Auvergne, tout à fait, j'y suis encore, je tiens à le signaler.
C'est vrai, vous vivez là-bas ?
Je vis là-bas la moitié du temps. J'embrasse le maire de Clermont-Ferrand.
Vous vivez à Clermont ?
Tout à fait. Oui. Et c'est vrai que d'avoir eu cette chance, je pense, de connaître l'apprentissage du muscle à travers un espace naturel qui n'est pas l'espace de la salle de sport, qui n'est pas les bords de Seine qu'on connaît bien, Frédéric et moi, ou le bois de Vincennes, qui est super, hein, par ailleurs, attention, hein, je suis pas en train de hiérarchiser, mais il y a quelque chose de l'ordre de la sensation, pour reprendre ce mot, qui est très différent, et surtout de ce moment, de cette osmose de tous les sens, c'est-à-dire de ce qu'on entend, de ce qu'on ressent, de ce qu'on touche, de ce qu'on sent avec ses narines, avec son nez aussi, de la voix et du souffle qui fait son travail.
Du chaud ou du froid que l'on perçoit.
Alors, souvent du chaud quand même.
Oui.
On a rarement froid.
En Auvergne, on peut courir dans le froid.
On peut courir dans le froid, mais on a rarement froid en courant, ça, il faut le savoir aussi. Mais il y a cette idée, je crois, que le cœur, dans ce qu'il a à la fois de poétique, littéraire et musculaire, dans l'espace naturel, il est absolument au bon endroit.
Cécile Coulon avec Frédéric Abergel. On va continuer de parler ensemble, de faire connaissance, notamment avec vos ouvrages. Cécile Coulon, Le visage de la nuit, et Frédéric Abergel, Après la neige. On va écouter Keren Anne qui chante Que la vie est belle. Est-ce qu'en ce moment, la vie est belle pour Cécile Coulon ?
En ce moment, elle est plus que belle. Elle est sublime.
Dit-elle avec un grand sourire.
Mais c'est vrai, ouais. C'est pas parce que j'ai le cerveau qui baigne dans les endomorphines, hein, c'est vraiment que je le pense.
Un peu quand
même. La vie est sublime, un petit peu quand même, c'est vrai.
Le vent souffle froid devant ta porte. Je me demande si tu regrettes la chaude lueur du vin, les feuilles mortes entre tes larmes de poète. Mais que la vie est belle, est-ce que tu t'en rappelles? Parfois quand tu te réveilles. Surréel, est-ce que tu t'en rappelles?
Atelier. Vincent Josse sur France Inter.
Cécile Coulon, l'invitée du Grand Atelier cet après-midi, vous disiez dans le générique « Je suis plus touchée par les lieux que par les gens qui les habitent ». Et on entre dans un lieu, dans le visage de la nuit, c'est la forêt. C'est un enfant au visage quasiment détruit, il lui reste la bouche et les yeux, mais le milieu du visage est totalement démoli, défoncé, c'est quelque chose de terrible à regarder et pour lui terrible à vivre parce que il est considéré comme un enfant monstrueux. Alors il est caché le jour par un prêtre. Je fais en sorte de pas tout raconter, hein, vraiment, je vous promets. Et il sort la nuit dans ce lieu. Alors la forêt, c'est un lieu enchanteur, c'est un lieu démoniaque, c'est un lieu qui nous fait peur. Choisir la forêt, c'est choisir le conte, Cécile Coulon.
Choisir la forêt, c'est choisir le conte, c'est choisir la fable, et c'est choisir cet endroit que vous avez bien décrit, c'est-à-dire à la fois un lieu de grand danger, mais aussi de grande liberté, de grand réconfort et de grand mystère. On pourrait parler des heures et des heures de ce qu'est la forêt, de ce qu'elle représente.
Notamment la nuit.
Surtout la nuit. D'une certaine façon, la forêt, c'est presque un endroit qu'on connaît mieux en littérature et en art, la nuit.
On a peur du loup.
À qui le dites-vous ? Mais en tout cas, moi, je l'ai choisi parce que je voulais que ce personnage puisse évoluer dans un endroit où il n'est pas vu et où il n'est pas visible et où il n'est pas regardé. Pour plusieurs raisons. La première, c'est quand il va dans cette forêt qui enclôt ce village, les seules âmes qui sont là, ce sont les animaux, sauvages ou domestiqués, et c'est la nature, ce sont les arbres, les mousses, les insectes, et tous ces êtres ne le regardent pas.
Vous dites qu'il est lui-même un gibier dans cette forêt.
Il est tout à fait un gibier, il est au même endroit, il est dans le même état, sur la même ligne.
Il est une bête sauvage alors ?
Il est une bête plutôt domestiquée, parce qu'il est bien gardé dans son propre enclos et dans sa propre cage.
Oui, mais une fois dans sa forêt.
Une fois dans sa forêt, il devient une autre personne, il devient un adulte. Pour lui, c'est un lieu d'apprentissage, c'est-à-dire qu'à partir du moment où toutes ses nuits, il a le droit de sortir dans la forêt, il va passer de l'enfant à l'adolescent,
absolument,
puis de l'adolescent à l'âge adulte. Donc c'est vraiment un lieu de métamorphose.
Oui, d'apprentissage, c'est une sorte de parcours initiatique finalement.
C'est un roman d'apprentissage, absolument. Mais c'est aussi l'apprentissage de vivre sans le regard des autres. Oui. Et je pense que c'était la grande question moi, que je voulais poser et que je me suis posée, c'est est-ce qu'on serait une personne différente si on avait été élevé hors du regard des autres et donc hors des attentes des autres, hors de l'éducation des autres. Et je pense que la réponse, dans 99% des cas, c'est non, bien sûr qu'on n'est pas la même personne si on n'a pas grandi sous le regard permanent de ceux qui nous connaissent un peu ou pas du tout. Et pour moi, c'est ça le grand sujet de cette forêt, de ce garçon, de la nuit, c'est qu'est-ce qui se passe quand on ne voit plus et quand on ne regarde plus, qui on est, quelle voix on prend, quel langage on utilise et comment on apprend à aimer dans ces nouvelles conditions.
C'est drôle parce que tout ce qui vous motive dans l'écriture, Cécile Coulon, c'est de savoir qui on est. C'est d'apprendre à se connaître par l'écriture, que ce soit le poème ou le roman. Vous cherchez, vous prenez des chemins différents, mais qui cherchent à répondre à cette question, qui on est, nous ?
Oui, je pense que mon travail, c'est de déplier une espèce de carte IGN. Et il y a un point final, et il y a, comme vous le dites, 1000 sentiers pour y accéder. Et à chaque fois que j'en prends un, et ben il y a toujours un moment donné où la rivière, le courant est trop fort et je ne peux pas traverser. Donc je fais demi-tour et j'essaye autre chose. Mais là, les buissons sont trop touffus. Et c'est vrai que c'est ça mon travail. Alors moi, je le vois un peu comme une quête. Je le vois un petit peu comme une partie de Donjons et Dragons, si vous voulez. Mais il y a cette idée que tous les supports, toutes les formes d'écriture, toutes les formes de langage, j'aime pas trop le terme de communication, donc je vais éviter de l'employer. Mais en tout cas, ce qui nous lie les uns aux autres, qu'on se connaisse ou pas, sont des moyens assez vains, hein, je dois l'admettre, pour essayer en tout cas de comprendre qui on est.
À côté de vous, il y a donc un mathématicien qui n'est pas que mathématicien, il a plusieurs possibles, il fait son pain. Il mange son pain, il offre son pain, il paraît que Cécile Coulon mange le pain de Frédéric Habergé.
Oui. Je lui mange pas la laine sur le dos, mais je mange son pain, qui est délicieux, je tiens à le signaler. Donc à Ivry-sur-Seine, l'endroit où il y a du bon pain, c'est chez Frédéric Habergé.
Ne donne pas l'adresse, on risquerait d'avoir du monde.
Voilà. En revanche, je vous donne son numéro de portable, c'est le... Cécile Coulon, comment vous connaissez Frédéric Habergé ?
Alors, c'est très simple, nous sommes voisins.
Clermont-Ferrand aussi ?
Plutôt Ivry-sur-Seine.
Ah oui.
Car je vis la moitié du temps à Ivry-sur-Seine et l'autre moitié à Clermont-Ferrand. Nous sommes voisins et nous avons un goût partagé pour la course à pied, pour la marche, pour la montagne, même si moi je suis amateur, et Frédéric est plutôt confirmé dans cet espace-là, pour le pain fait maison, et quelque chose d'important à signaler, le fait de discuter en courant. On a des longues conversations.
Il paraît qu'il faut, on peut réussir à parler en courant et c'est comme ça que ça marche.
Ah, c'est pas qu'on peut réussir, c'est qu'il faut apprendre à courir. Voilà.
Moi, je m'évanouis si je parle quand je cours.
Alors voilà, mais donc vous courez trop vite. La réalité de la course, c'est qu'on doit pouvoir parler tout en courant.
Vous parlez de quoi quand vous courez? Est-ce que vous parlez de choses différentes d'une rencontre à un café?
En fait, on parle de manière plus fluide en courant et on est en même temps sensible à ce qu'on ressent, parce qu'on ressent plus de choses que lorsqu'on est assis à une table ou à un café. Donc je ne sais pas si les sujets sont abordés différemment.
Ils sont plus profonds.
Mais ils sortent de manière plus intéressante souvent, et avec des surprises. Des effets de surprise aussi liés au paysage, liés à l'effort. Enfin, ce que disait Cécile sur le fait d'avoir appris à courir dans la nature quand elle était enfant, je ne vais pas dire
oui,
jeune, parce que
dans son Auvergne natale,
quand elle était enfant. Et moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti plutôt alors dans la montagne, parce que étant plus citadin, c'est plutôt dans la montagne que j'ai trouvé un espace de liberté quand j'étais gosse, avec tout à coup des champs d'investigation infinis. Lorsqu'on va au ski, par exemple, à 10 ans, on vous laisse des milliers d'hectares à vous. Et vous faites ce que vous voulez, sans vos parents, évidemment. Donc, il y a une sensation de la liberté.
Oui,
qui
vous avez éprouvé la liberté très tôt.
Oui,
très jeune.
Et j'y ai goûté très tôt, et voilà, je m'y suis attaché profondément.
Et puis, je pense que chez Frédéric, le sujet de la neige et de ce rapport à la neige qui est assez incroyable. Et
c'est d'ailleurs le sujet de son livre.
Tout à fait.
Presque un personnage du livre.
C'est un personnage.
Ça s'appelle Après la neige.
Après la neige. Malheureusement, comme toutes les dystopies, le temps, l'époque nous rattrape. Donc on est déjà après la neige, en réalité.
Oui, parce que c'est pas pendant le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est là depuis des années.
Maintenant.
Et donc, il y a des conséquences.
C'est ça.
C'est que la nature n'est plus la même. Et que trouver un espace avec de la neige, c'est très rare.
C'est absolument rare. Et donc, dans ce livre, je parle de personnages qui, pour plein de raisons différentes, sont attirés par ces lieux où il reste encore de la neige. La dernière neige.
Encore un peu d'espoir.
Un peu d'espoir ou un peu d'inconscience, un peu de désir. Parce que souvent, les gens qui font des expéditions, les aventuriers, les alpinistes, sont portés exclusivement par leur désir au mépris de tout le reste. Et là, c'est un peu ce qu'on voit. Il y a une partie, il y a un groupe qui ne pense qu'à une chose, c'est réaliser une ascension et à tout prix. C'est quelque chose qu'on ressent beaucoup lorsqu'on est souvent en montagne. On voit le changement d'une année à l'autre. Et moi, je continue à y aller. Donc, je fais partie des gens qui sont dans la contradiction, dans la complexité de la chose. C'est-à-dire, on a envie de faire quelque chose. On aime la montagne, on aime y être. Et on sait qu'en y allant, on contribue au réchauffement, on contribue à sa dégradation. Donc, je n'ai pas de réponse à ça.
Parlez-nous de votre lecture de « Après la neige », Cécile Coulon. Comment vous l'avez ressenti, ce livre où des gens se retrouvent en Alaska dans un refuge?
Le refuge en Alaska. En fait, ce qui moi m'a beaucoup touchée dans ce livre et marquée, c'est qu'on avance avec ces personnages. La question du temps qui s'étire, c'est-à-dire qu'une heure de marche dans la neige en altitude, c'est quelques centaines de mètres, peut-être. Et quand on lit le texte, on avance avec eux, et il y a dans la langue, dans le style de Frédéric, cette épaisseur de la neige dans laquelle vous avancez en tant que lectrice ou en tant que lecteur, et vous êtes sur les pentes de ce glacier avec ces gens. Vous comprenez bien très vite que dans cette expédition, ils ne sont pas tous là tout à fait pour les mêmes raisons, et ils n'ont pas tous le même caractère, et il y en a un qui est à côté de vous, l'autre qui est encordé à vous, et vous vous dites, mais est-ce que je peux vraiment leur faire confiance? Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est-à-dire le sentiment d'être avec de la neige jusqu'au nombril, avec ces personnes, et de me dire, mais est-ce que je peux vraiment faire confiance à ces personnes qui m'entourent dans cet espace qui est à la fois majestueux et dangereux, parce que c'est dit pendant tout le livre, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, le danger de la beauté, il y a quelque chose de très très fort là-dedans, dans ce texte, de se dire, ce que j'ai sous les yeux, ce que j'imagine de ce que je peux avoir sous les yeux, ça tient du miracle naturel, et pourtant, la mort est toujours à une plaque de glace ou à une crevasse près.
Mais quoi. Ça vous réunit un peu, d'ailleurs, dans ces deux ouvrages, sont un peu communs par ça, c'est-à-dire que ces six beaux lieux, la neige, l'Alaska et la forêt, qui est un lieu merveilleux, et bien, ce sont aussi des lieux menaçants. Et alors, ça fait pas de vos livres des romans noirs, mais il y a quelque chose quand même de l'ordre de la crainte de tourner une page. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il arriver au personnage? Cécile Coulon.
Mais je crois que cette crainte-là, moi, c'est la crainte que j'adore ressentir depuis que j'ai appris à lire et qu'on m'a raconté des histoires, d'absolument avoir envie de savoir ce qui se passe ensuite, et en même temps d'avoir peur de savoir ce qui va se passer. Et je trouve que cette contradiction dans l'émotion, c'est-à-dire je veux absolument savoir, mais en même temps s'il se passe quelque chose de terrible, oh là là, mon Dieu.
Mais il y a ça dans vos livres.
Bah, merci, ça veut dire que j'ai bien bossé.
Ouais, non, mais on sent que c'est ce fil-là que vous tirez. Ouais.
Oui, mais parce que ce fil-là, j'ai l'impression qu'il est tellement présent en moi, d'abord en tant que lectrice, parce que je pense qu'il faut quand même garder en tête qu'écrire, c'est d'abord, avant toute chose, lire énormément, s'inspirer, digérer ce qu'on a lu aussi. Moi, j'ai été biberonnée à la monstruosité littéraire, au livre de Stephen King, oui, au livre de Mary Shelley, à Frankenstein, à Dracula, à Lovecraft. Voilà, on aime beaucoup Lovecraft tous les deux, à cette idée qu'il y a du mystère, de l'horreur, et pourtant, dans ce mystère et dans cette horreur, une forme de beauté pure.
Eh bien, Stephen King est d'accord avec vous. Vous allez, je vais vous le prouver.
Mais je crois que la chose la plus importante, c'est de débuter par des choses que nous comprenons tous avec la vie d'ordinaire. La chose la plus importante est de raconter la vérité sur la façon dont les gens se comportent et la façon dont les gens réagissent à des circonstances qui se produisent. Ça peut être, par exemple, avoir un enfant qu'on n'a pas voulu et de découvrir que, par exemple, une petite fille est enceinte, ou ça peut être une mort soudaine, ça peut être un meurtre. La chose importante, c'est de raconter la vérité. Et puis, je veux introduire cet autre élément. Ça peut être un loup-garou, ça peut être un vampire, ça peut être un clown qui vit dans les égouts et qui attrape les enfants, ça peut être un retour dans le temps pour tenter de sauver John Kennedy. Mais si je peux vous faire croire aux gens, si je peux vous faire aimer ces gens-là, le reste est facile. Non, la partie difficile, c'est de raconter la réalité au sujet de la vie, comme c'est dans le véritable monde. Et ensuite, les monstres, ça c'est la partie drôle.
Voilà, il faut débuter par les choses que nous comprenons, puis si vous voulez ajouter un clown qui tue, faites-le.
Mais on était en train de discuter de cette peur des clowns, et j'expliquais à Frédéric que moi j'ai commencé à avoir une petite phobie des clowns à partir de 7 ou 8 ans, à cause, ou grâce à Stephen King, à cause du livre Ça, et du film à l'époque qui passait à la télévision en deux parties, où tout d'un coup, ça a ouvert une porte de terreur phénoménale, ce qui est quand même la trace d'un très grand romancier, d'être capable de faire ça chez les autres.
Il a réussi à créer un mot dans la langue française. Enfin, je ne sais pas comment on le dit d'ailleurs, mais la phobie des clowns est devenue un mot.
Grâce à Stephen King.
Les clowns ne le remercient pas.
Non.
Mais vous êtes d'accord avec lui sur l'idée de raconter la vérité sur la manière dont les gens se comportent, sur la manière dont les gens réagissent à des circonstances qui se produisent. Il dit qu'il faut commencer par ça, être proche de quelque chose de véridique, d'authentique.
Je suis assez d'accord sur l'idée que pour commencer à écrire, ou en tout cas faire un premier roman ou une première nouvelle, l'idée d'aller raconter une émotion ou un acte ou un processus qui nous étonne en tout cas, chez les autres, chez ceux qui sont là à côté de nous et qu'on n'a pas compris, dit « Ah mais donc dans l'humanité, il y a donc cette possibilité-là existe, je l'ai vue, je l'ai vécue, je vais la raconter », je crois effectivement que c'est une très bonne manière de commencer à penser à une histoire ou à l'écrire. Ensuite, il me semble qu'on ne peut pas parler uniquement de ce qu'on connaît ou de ce qu'on vit, parce que sinon la fiction n'existe plus.
Vous ne connaissez pas d'enfant défiguré ?
Alors si.
Est-ce que c'est lui, puisque vous connaissez quelqu'un, qui a donné envie à Cécile Coulon d'écrire ce roman ?
Pas du tout. Ce qui m'a donné envie d'écrire ce roman, c'est d'abord les figures monstrueuses de la littérature qui m'ont donné envie d'écrire tout court. C'est Frankenstein, c'est Elephant Man, c'est Dracula, c'est La Forme de l'eau. Ce sont toutes ces créatures artistiques qui sont en fait plus belles que ce que nous considérons comme de la normalité.
Et vous, qu'est-ce qui vous donne envie d'écrire un roman aujourd'hui, Frédéric Habergel ? Vous êtes un homme heureux quand il voyage, quand il marche, quand il fait son pain. Vous êtes un homme heureux quand il enseigne, quand il cherche en mathématiques. Pourquoi l'écriture ? Pourquoi l'écriture romanesque ?
L'écriture me traverse depuis très longtemps, en fait. Après l'écriture romanesque, il y a un délai de prescription pour les romans, donc c'est un deuxième premier roman, d'une certaine manière, hein, ce que j'ai publié récemment. Mais ce qui est intéressant dans le fait d'en faire une fiction, parce que j'avais pas mal fait de petites chroniques de montagne, et là, j'ai eu envie d'élaborer sur une frustration et un désir qui ont été les deux points de départ de ce livre, c'est que je préparais une expédition un peu dans le même cadre que celui que je décris dans le livre.
Donc l'Alaska.
Donc l'Alaska. Et l'expédition m'a occupé pendant un an, la préparation, et puis finalement ne s'est pas faite pour des raisons liées à un pangolin ou une chauve-souris. Voilà.
Oui, un vague confinement, un vague Covid.
C'est ça, voilà. Donc on n'est pas parti, on n'est jamais parti. Et de fait, m'est restée cette envie, et si on était allé là-bas,
ah,
qu'est-ce qui aurait pu se passer ?
Vous avez voyagé en écrivant.
Donc j'ai voyagé grâce à l'écriture, absolument.
Ouais. Formidable ça, on va continuer de parler avec vous d'écriture, de marche, de neige, de monstre. Il y a aussi un enfant très très beau, et c'est finalement aussi une monstruosité que d'être très 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 beau, d'après Cécile Coulon. On en parle dans un instant avec vous et avec vous deux, après avoir écouté un des chouchous musicaux de Cécile Coulon. Pourquoi tant d'amour pour Hubert Félix Thiéphen ?
Pour la grande poésie de ses textes, pour cette capacité à mêler, encore une fois, le rythme. Alors, sa voix est incroyable, évidemment, mais on n'est jamais, jamais ennuyé dans une chanson de Thiéphen. Et ça, je trouve ça incroyable d'être capable de faire ça en musique.
Qu'est-ce qu'elle raconte, la chanson « Les dingues et les paumés » ?
Ah mais ça, il faut l'écouter pour savoir.
Les dingues et les paumés jouent avec leur manie. Dans leur chambre blindée, leurs fleurs sont carnivores. Leur monstre crie trop près de la sortie. Ils accouchent de scorpions et peur des mandragores. Et leurs aéroports se transforment en bunker. À 4 heures du matin derrière un téléphone. Quand leur voix qui s'appelle se change en revolver. Et s'invite à calder en se gueulant comme un. Les dingues et les poupées se cherchent sous la pluie. Ils se font boire le sang de leur vision perdue. Et dans leurs yeux mescales masquant leur nostalgie, ils voient se dérouler la fin d'une inconnue. Ils voient des rois fantômes sur des flippers en ruine, crachant l'amour folie de leur nuit métropole. Ils croient voir venir Dieu, ils relisent leurs lignes et retombent dans leurs bras glacés de baby doll. Se traînent chez les Borgia, suivis d'un vieil écho jouant du rock'n'roll. Puis s'enfoncent comme des rats dans leur banlieue by night, essayant d'accrocher un regard à leur cône. Et lorsque leur tomba joue à guichet fermé, ils tournent dans un cachot avec la gueule en moins. Et sont comme les joueurs courant décapités, ramasser leurs jetons chez les dealers du coin. Les dingues et les poumés s'arrachent leur placenta et se greffent un pavé à la place du cerveau. Puis s'offrent des migales au bout d'un bazooka en se faisant danser jusqu'au dernier mambo. Ce sont des loups frileux au bras d'une autre mort, piétinant dans la boue les dernières fleurs du mal. Ils ont cru s'enivrer des chants de mal d'aurore. Et maintenant ils s'écroulent dans leur ombre animale. Les dingues et les paumés sacrifient Don Quichotte sur l'autel enfumé de leurs fibres nerveuses. Puis ils disent à leur reine en riant du boycott: la solitude n'est plus une maladie honteuse. Reprends tes valkyries pour tes valseurs mazo. Mon cheval écorché m'appelle au fond d'un bar. Et cet ange qui me gueule, viens chez moi mon salaud, m'invite à faire danser l'aiguille de mon radar.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
La marche, c'est ce qui relie nos invités d'aujourd'hui, Cécile Coulon qui a invité le mathématicien et romancier Frédéric Habergel. Marcher, c'est aussi écrire, c'est une forme de marche, hein, l'écriture. Parfois avec un sac à dos très lourd, Cécile Coulon,
oui,
et parfois
dépend...
avec des espadrilles.
Ça dépend le poids du sac à dos, ça dépend si on a des claquettes ou des bonnes chaussures de rando aux pieds pour commencer. Mais ce qui est assez étonnant dans l'écriture, on ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'on commence à écrire. Est-ce que c'est des mois, des années avant de poser le premier mot parce que l'histoire se forme dans nos têtes ou dans nos cœurs pendant des années avant qu'on se dise « maintenant je m'y mets ». Est-ce qu'on commence, est-ce que la ligne de départ c'est vraiment, est-ce que la ligne du PR, est-ce que c'est vraiment ce premier mot et on laisse dérouler l'imagination ? C'est ça que moi je trouve assez fascinant, c'est une marche très longue, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle commence réellement, et on ne sait jamais vraiment quand elle se termine. Et on ne sait jamais dans quel état et quel poids va peser le sac à dos, on ne sait jamais si on va devoir changer de chaussures en plein milieu.
Ça s'appelle une aventure.
Une aventure, c'est un peu Compostelle, mais sans aucun endroit pour dormir.
Il y a beaucoup d'écrivains voyageurs, il y a eu un immense écrivain voyageur fasciné par la mythologie et rendant la mythologie grecque fascinante, c'est Jacques Lacarrière. Écoutez-le dire ce que c'est que la marche pour lui.
Ce qui est très, très intéressant en même temps quand on marche, c'est qu'on s'intéresse à tout, à ce qu'on ne verrait jamais dans d'autres circonstances, même à des choses apparemment banales. Tiens, pourquoi est-ce qu'on a mis une fleur à cet endroit-là plutôt qu'ailleurs? Tiens, qu'est-ce qui a marqué là sur cette porte? Parfois, c'est depuis des années, on trouve des inscriptions presque effacées. On s'intéresse effectivement à tout. Ce n'est pas une volonté a priori de refuser d'autres moyens de locomotion, mais c'est celui-là que je souhaitais parce que c'est celui qui vous met le plus en contact, non seulement avec les gens, mais avec les choses, c'est-à-dire avec la nature. C'est beaucoup plus intéressant de redécouvrir son propre pays, sous un angle très particulier, bien sûr, de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés dans d'autres circonstances, et qui se trouvent extrêmement disponibles pour parler avec vous. Quand vous arrivez, que vous restez une heure, que vous repartez, on ne vous a jamais vu, on ne vous reverra jamais, il y a un échange qui se crée, qui a un caractère bien particulier. Et beaucoup de gens m'ont fait leur confidence. J'ai noté tout cela. Ce sont des bonheurs fugitifs. Ce sont des rencontres instantanées. C'est une succession d'instantanés.
Quand j'entends la carrière et quand je vous entends, ça donne évidemment envie de sortir du studio et d'aller marcher. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que vient de dire Jacques Lacarrière, Frédéric Habergel?
Absolument. Je me retrouve particulièrement dans le fait de la rencontre, au hasard. Parce que lorsqu'on marche et qu'on croise des gens, de toute façon, on se salue. Alors, en ville, je ne sais pas si vous vous rappelez d'un vieux film qui s'appelait Crocodile Dundee,
oui.
Où il arrive à New York et il salue tout le monde parce qu'il sort du bush australien et qu'il croise des gens. Et bon, voilà, donc ça dure un peu longtemps, on rigole pas mal.
C'est un peu la même chose quand on arrive à Paris. Hein.
Voilà.
On dit bonjour et les gens répondent
les
pas
gens
forcément.
Ne répondent pas. Mais lorsqu'on est sur les sentiers, on dit bonjour et parfois on s'arrête et on échange et quel chemin as-tu pris et où est-ce que tu vas et est-ce que c'est bien là-bas. Et puis, effectivement, comme le disait Jacques Lacarrière, on peut aller à la confidence, on peut se poser. C'est une gratuité de la rencontre qui en fait une honnêteté vraiment forte, quoi, fondamentale.
Il y a quelque chose de très authentique, de très immédiat.
Absolument.
Cécile Coulon, pourtant, quand on écrit, on est tout seul et on aime finalement la solitude. On n'est pas forcément misanthrope, mais aller marcher, c'est rencontrer les gens. Et ça, vous en avez besoin?
Aller marcher et courir aussi, ça marche pour la course à pied, parce que toute personne qui a déjà pris un dossard pour une course sait à quel point les gens qui sont sur la ligne de départ, on discute très très vite et on parle très très vite et on cède pendant la course et on se parle après. Ceux qui font du trail en montagne le savent encore mieux que les autres. Je pense qu'il y a effectivement quelque chose de l'ordre de l'honnêteté de la rencontre. Je pense qu'il y a l'impossibilité du mensonge aussi. Et puis parce que une fois de plus, il y a ce corps qui prend tellement de place et qui est essoré. Alors ça dépend à quel niveau de la course ou à quel niveau de la marche on est, hein, bien sûr. Mais j'imagine, enfin je crois, que on n'est pas la même personne quand on bouge et quand on ne bouge pas. Quand on est devant sa feuille ou son ordinateur, il y a une tension musculaire évidente, il y a cette âme et cette tête qui travaillent et on fume par les deux oreilles pour écrire son histoire. Mais il n'empêche que lorsqu'on est en mouvement, lorsqu'on marche, lorsqu'on fait du vélo, lorsqu'on court, lorsqu'on nage, chacun choisit, il y a une vérité absolue parce qu'on n'a pas le temps, le cerveau ne peut pas, enfin le cerveau et le cœur ne peuvent pas gérer à la fois du mouvement et à la fois du mensonge et à la fois du déguisement social. Et c'est pour ça que c'est intéressant de parler à quelqu'un à la fin d'une course. Parce que certes, la personne sent très mauvais, mais on sait que c'est là que se loge la véritable honnêteté.
Vous vous sentez très bon, Cécile Coulon.
Ah ben, je vous remercie.
Je voudrais qu'on écoute quelqu'un que vous avez cité avec son livre magnifique, La petite communiste qui ne souriait jamais, Lola Lafont. Elle aime bien aller danser, elle, prendre des cours de danse.
Est-ce qu'il vous arrive de résoudre des problèmes d'écriture précisément pendant le cours de danse?
Ah oui. Il y a le moment où, quand on écrit un peu trop longtemps, où pour moi ça devient un labyrinthe. C'est vraiment, je me cogne, je deviens un peu très angoissée. Et donc, la seule manière de dénouer, je résous les choses, effectivement, en me reconfrontant au rituel physique.
Mais est-ce que vous avez eu des idées de texte pendant les cours?
Ouais. Alors,
en dehors des problèmes à résoudre?
Ah oui, oui.
Des idées nouvelles?
Oui. Et alors ça, c'est terrible, parce qu'évidemment, c'est ritualisé de tous les côtés, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui ne se font pas dans un cours de danse un peu sérieux. C'est-à-dire, vous ne quittez pas la barre pour tout d'un coup aller enregistrer dans votre téléphone des idées. C'est genre hors de question, quoi.
Et vous le faites.
Mais non, je ne le fais pas. Donc je me répète la phrase comme une malade, et je me profite d'une petite pause. Quand on passe du milieu, de la barre au milieu, tout le monde va boire un petit peu dans son sac, on va... Voilà, moi je me penche vers mon téléphone, et... Donc, il y a un vrai rapport.
Est-ce que vous aussi, vous vous interdisez d'écrire les phrases qui viennent dans votre tête quand vous courez, Cécile Coulon ?
Je déteste m'arrêter quand je cours. Alors ça, je dis aux gens qui se moquent de ceux au feu rouge qui courent sur place.
Oui !
Beaucoup de gens se moquent. Et en fait, moi, je comprends tout à fait, et je pense que Frédéric aussi, quand on est en train de courir, ce rythme est tellement important que même s'arrêter 30 secondes au feu
c'est
rouge...
C'est de casser.
Ça casse la jambe, donc on préfère trottiner sur place.
Mais qu'est-ce que vous faites des phrases qui viennent ?
Alors, je me souviens d'un très grand conseil donné par Fred Vargas à l'époque qui disait...
L'autrice de Polar.
De Polar, nous étions dans la même maison d'édition chez Viviane Ami, et elle disait « Il ne faut jamais prendre de notes quand on a une bonne idée. Quand on a une idée de phrase, quand on pense à quelque chose, ne prenez pas de notes. Il faut dormir dessus, et si le lendemain, l'idée est toujours là, c'est qu'elle vaut la peine d'être écrite. »
Ça vaut aussi pour la critique. Je me permets de citer Colette Godard, feu Colette Godard, qui était une grande critique de théâtre du Monde. Quand elle me voyait prendre des notes au théâtre pour Le Masque et la Plume, elle me disait « Arrête avec ton cahier et écris demain et tu verras, ça restera. Ce qui est important restera. »
Oui, et c'est le même processus. Et je crois qu'en courant, je me dis ça, je me dis à la fin de ma course, si cette idée est encore là, c'est qu'elle vaut la peine. Sinon, peut-être qu'elle reviendra, peut-être que c'était tout à fait fugace. Mais c'est vrai que je ne m'arrête pas pour écrire dans mon téléphone une idée. Je suis incapable de faire ça pour l'instant.
Vous avez écrit ce magnifique roman Le visage de la nuit où on l'a dit, un enfant défiguré tente de vivre et il peut vivre la nuit, il pourra vivre aussi en ayant une activité bien précise et bien cadrée entre des murs. Et puis il y a cet enfant très beau qui lui aussi prend des risques en montrant son sublime visage. Vous travaillez sur la monstruosité mais peut-être aussi sur la marge, Cécile Coulon.
Oui, je travaille sur tout ce qui déborde. Sur tout ce qui prend de la place, mais jamais dans le centre, et plutôt sur les côtés. Vous avez raison d'utiliser ce mot de marge, parce que ces deux personnages, et bien d'autres comme le prêtre ou comme Madame, qui est une institutrice aveugle...
Qui s'occupe de ce petit garçon,
sont des personnages qui, à la fois, sont sur les côtés du village, et dans un même mouvement, cherchent leur place dans la communauté des villageois.
Oui, et la place qu'on se trouve, elle est finalement dans une recherche de sainteté.
Tout à fait. Et c'est une place qui est aussi une fonction. C'est-à-dire que ces personnages, et c'est aussi pour ça que je ne leur donne pas de prénom, n'existent dans ce village qu'à partir de ce qu'ils y font.
L'institutrice.
Oui.
L'ex-institutrice. Oui. Le prêtre.
Le prêtre. Et ce monstre qui, à partir du moment où il va trouver son métier ou qu'il va le découvrir, ne sera plus un monstre parce qu'il va avoir sa place. Il va apporter quelque chose aux autres. Et à partir du moment où il va apporter quelque chose aux autres, il ne sera sans doute plus vu comme un monstre. Et c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est de se dire comment ces personnages, qui sont de toute façon jusqu'à la fin de leur vie, ils seront à la marge. Et pourtant, dans cette marge, ils apportent aux autres bien des choses, bien des connaissances, bien des savoirs. Et peut-être que c'est dans cet élastique, c'est-à-dire je reste en périphérie, pourtant si je ne suis pas là, vous ne pouvez pas continuer à vivre.
Vous écrivez sur les contrastes, Cécile Coulon. Il y a la laideur et puis il y a la beauté en face. Il y a le jour et puis il y a la nuit. Il y a les hommes dans la cité et puis il y a la nature, la forêt. Il y a la vie et la mort qui est là tout le temps avec une frontière si fine entre les deux.
Oui, ça m'intéresse. Et ce qui m'intéresse dans ces contrastes, c'est ce qu'il y a au milieu. C'est-à-dire... Est-ce qu'il y a vraiment un moment où la vie commence et un moment où elle finit qu'on appellerait la mort ? Si c'est ça, c'est d'une tristesse absolue, c'est d'une banalité, d'un ennui, pardon. Je pense et j'écoute ceux qui s'y connaissent et qui en parlent. Et il y a un professeur qui s'appelle Monsieur Philippe Charlier qui parle si bien...
Passionnant,
qui parle si bien de la mort et qui avait cette phrase...
C'est un médecin légiste à la base.
Médecin légiste, tout à fait. Et qui a cette phrase incroyable, il dit « Mais ce que nous considérons comme un corps mort, ce n'est pas... un corps mort aux yeux de la biologie, quoi. Ce qui reste vivant dans le corps, quand nous, on se dit c'est fini, cette personne ne sera plus là, ça dure pendant des années, des dizaines d'années. Et en fait, j'ai écouté beaucoup d'interviews de ce monsieur Et ça m'a beaucoup aidée pour ce texte, parce que je me suis dit, mais si ça fonctionne pour ce qu'on considère comme la mort, ça fonctionne pour la beauté, ça fonctionne pour la laideur, ça fonctionne pour ce qu'on considère, nous, culturellement, comme beau.
Tout ça, c'est le visage de la nuit.
Absolument, mais je suis en train de vous parler de ce livre.
Ouais. Non, mais c'est fascinant de voir comment c'est venu et comment sont nés ces personnages.
Ces personnages sont nés de cette question, est-ce qu'il y a autre chose que ce qu'on imagine culturellement dans les êtres qui nous entourent. C'est-à-dire qu'on a tous et toutes une construction culturelle de nos proches, des histoires qu'on se fait, qu'on s'invente, de ce qu'est le danger, de ce qu'est la sécurité. Et il me semble qu'écrire un roman, c'est justement de venir chercher ce qu'il y a entre les deux.
Je me tourne vers votre invité, Frédérica Bergel. Je rappelle que vous publiez aux Presses de la Cité Après la neige, et que vous êtes chercheur, mathématicien, professeur et boulanger. Et j'aimerais, sans dire forcément que Cécile Coulon est merveilleuse, c'est pas le but de l'émission, que vous nous...
N'hésitez pas, hein, franchement, je prends.
Que vous faisiez part de votre lecture. J'aimerais bien que vous fassiez part de votre lecture de ce livre, Le visage de la nuit. Puis derrière, si vous voulez bien, Cécile Coulon, vous lirez un extrait du livre. Et ensuite, on écoutera Taïm Impala. Vous voyez, j'ai tout un programme pour vous.
Parfait. Un grand plaisir. Ce que j'ai découvert dans Le visage de la nuit, c'est d'abord, bon, évidemment, un paysage humain, donc un visage, un premier chapitre saisissant, et un environnement fait d'archétypes qui fait que tout à coup, on a un monde devant soi et pas une petite société plus ou moins définie.
On disait le prêtre,
très clair, le prêtre,
institutrice,
madame, le héros,
les enfants,
et un village autour. Et puis, il y a cette forêt qui est pour moi quelque chose de tellement antithétique. Enfin, c'est un lieu qui me plaît énormément, qui m'intéresse énormément, parce que c'est le contraire de ce que j'aime faire. C'est-à-dire, je n'aime pas ne pas voir. Or, la forêt, on a un horizon à 3 mètres le jour et à 50 cm la nuit. On ne voit jamais rien. Et donc, on sent. On est dans l'humus, on est dans les odeurs, on est dans l'air, dans les cris, dans les bruits des animaux. Et donc, les aventures du héros du visage de la nuit dans la forêt, c'est quelque chose de saisissant qui m'ont pris vraiment au trip, quoi. Cette lecture m'a vraiment transporté dans un univers à la fois inquiétant, sombre, et puis aussi très familier, parce que Cécile, tu as parlé de limites, de marge et de où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se situe, est-ce que la limite existe vraiment, où est-ce qu'on peut pousser plus loin, faire vivre après la mort, être beau malgré la laideur, etc. Enfin, vivre après la mort, c'est quelque chose qui m'est assez familier en termes de fiction et sans déflorer non plus, il y en a un petit peu dans Après la neige. Et donc, j'ai beaucoup aimé cette gradation entre la beauté et la laideur.
Et encore,
puis, l'opposition.
Il y a un personnage qui essaie de rendre les morts beaux dans ce livre. Je n'en dis
pas
plus.
Ah oui, mais je ne voulais pas en parler.
Vous avez raison.
Voilà.
Je n'ai pas dit quel personnage. Peut-être une lecture pour éclairer un peu ce qui vient d'être dit, Cécile Coulon.
Le paysage lui ouvrait les bras. Les collines repoussaient leurs flancs pour l'inviter entre elles. Les bois frémissaient, alors même que le vent tombait de l'autre côté de la vallée, laissant le village et ses abords immobiles et rafraîchis. Pendant 10 jours, il était resté prisonnier de l'église et de ses pensées. Il ne savait pas ce qui était le pire entre les deux. Dehors, sa tête, son cou, ses épaules craquèrent. Son corps reconnut immédiatement la texture de la nuit, la douceur de son chant. Alors, le garçon s'enfuit à toutes jambes, souriant follement, et bientôt il disparut sur le sentier de la chienne. Il traversa le ruisseau, vérifia qu'aucune lueur ne brillait dans la vallée, il courait et la chaleur montait dans sa poitrine.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Never leave you. You'll never see me in the light of
Tame Impala qui chantait Dracula. Vous allez apprécier ce choix. Exactement. Cécile Coulon, vous qui ne vivez que pour Frankenstein et Dracula.
J'ai une petite préférence pour Frankenstein.
Pourquoi?
Je l'admets. Déjà parce que c'est Mary Shelley qui a écrit. Et je pense que la correspondance, notamment, de Mary Shelley est un monument de littérature. Et dans la fin du texte de Mary Shelley, Frankenstein, la créature du docteur Frankenstein retrouve donc Victor Frankenstein qui est en train de mourir et lui dit qu'en tant que monstre, en tant que créature, il ne sera jamais ni puni, ni absous, et que c'est là le grand drame de sa vie. Et ça, ça m'a beaucoup marqué aussi dans mon enfance, quand j'ai lu le texte, quand on me l'a lu, et ça m'a beaucoup aidé pour l'écriture du Visage de la nuit.
Vous avez beaucoup frissonné dans votre vie.
J'ai beaucoup frissonné, mais volontairement, je tiens à le signaler, et parce que j'ai toujours aimé, mais je pense qu'on est plusieurs hein, à aimer ça, aimer se faire peur, ouais. Aimer avoir peur.
Ce sont les livres pour enfants qui marchent le mieux.
Et oui,
c'est vrai,
je comprends.
Depuis toujours.
Mais je comprends parce que être secoué par une histoire dont on ne voit pas les images, c'est une émotion incroyable.
Si je vous dis Méduse au singulier, Cécile Coulon, de Martine Desjardins, vous me répondez quoi?
Je vous réponds excellent roman qu'il faut absolument lire.
Pourquoi?
Eh bien, écoutez, je lis pas mal de livres. Et dernièrement, je pense que Méduse a été le livre dont l'histoire, dont les scènes me restent en tête. Et ça fait des mois que j'ai lu ce texte.
C'est écrit roman gothique féministe.
Oui, parce qu'il faut bien mettre les livres dans des cases. Vous savez très bien ça. Et ce livre-là, donc Martine Desjardins, elle est québécoise. Elle a donc une langue, elle a une maîtrise de la langue française qu'elle vient tordre et magnifier et jouer avec. Son style est incroyable. Je n'ai jamais lu quelqu'un écrire comme ça.
Elle raconte vraiment. Quoi, là?
Elle raconte l'histoire d'une très jeune fille, d'une fillette, qui a une frange très très basse sur les yeux et qui marche la tête baissée parce qu'à chaque fois qu'elle regarde quelqu'un, cette personne est soit prise d'une crise cardiaque, soit s'effondre. Et donc, évidemment, c'est un problème pour sa famille d'avoir cette fillette qui, en plus, est assez laide. Donc, elle est mise dans un pensionnat.
C'est un monstre.
C'est un monstre. Elle est mise dans un pensionnat où il n'y a que des jeunes filles qui sont toutes atteintes d'une difformité physique extrême. Et on va suivre le destin, l'apprentissage de cette fillette. C'est un livre qui est vif, qui est très très cruel, qui est extrêmement dérangeant, je tiens à le signaler quand même. Mais franchement, cette dernière année, je n'ai pas lu de livre qui m'ait autant marqué.
Wow.
Donc je vous le recommande chaudement.
Méduse, Martine Desjardins. C'est un livre qui est apparu à l'Atalante.
Tout à fait.
Vous donnez très envie. Frédéric Abergel, il paraît qu'il faut suivre un festival itinérant de films de montagne. Ce festival, c'est Montagne en scène, donc par définition itinérant. Il n'est pas uniquement à Paris. À Paris, ce sera au Grand Rex mardi, mais on peut le voir ailleurs.
Absolument. Montagne en scène est un festival qui a quelques années. C'est un festival de films de montagne. On peut voir mardi prochain à Paris au Grand Rex, et on peut le voir dans plusieurs villes en France par la suite. Alors, c'est quelque chose qui a commencé petit, qui maintenant est un peu une institution depuis une dizaine d'années, du film de montagne. Ce que je trouve absolument passionnant, c'est que on y voit, contrairement à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, où toute personne qui sort en montagne, va au vieux campeur, achète un piolet et se met une story sur Instagram, okay. Là, on assiste à des véritables exploits qui inspirent, qui font peur, hein, puisqu'on parlait de peur, il y a des situations qui font vraiment très peur, et avec la simplicité des vrais aventuriers, c'est-à-dire des gens qui font des choses extraordinaires, et c'est juste ce qu'ils font tous les jours. Donc, quand ils rencontrent des dangers, bah, ils les affrontent, parfois ils les surmontent, parfois ils n'y arrivent pas, il y a aussi de la vérité dans les films, il y a les échecs. Donc, c'est un festival que je recommande pour les gens qui aiment la montagne, et puis les gens qui se posent des questions sur leur capacité à faire des choses en alpinisme, en montagne. On a beaucoup parlé de l'Everest parce que c'est devenu la tarte à la crème, tout le monde veut aller à l'Everest. Mmh. À Montagne en Seine, on ne parle pas de l'Everest, on parle de choses parfois beaucoup plus proches et tout aussi exceptionnelles et tout aussi extraordinaires. Donc je recommande franchement la vision de ces films.
Montagne en Seine, et puis le premier conseil, c'était Méduse. Vous êtes déjà en train de nous réclamer le titre Méduse de Martine Desjardins à l'Atalante. Faut pas oublier non plus votre goût des maths, monsieur Abergel. Vous n'en parlez pas beaucoup. En plus de la marche, des voyages, de la gastronomie, je sais que vous aimez tout ça. C'est sans doute utile parfois de rappeler que les maths, ben c'est utile, que c'est pas simplement abstrait, notamment dans ce film Life of Chuck. Un film récent de Mike Flanagan, d'après
Stephen King.
Ben oui, d'après un autre des chouchous de Cécile Coulon. Il y avait ce grand-père comptable qui expliquait à son petit-fils pourquoi les maths, c'est tellement important.
Une petite chose à propos des maths. Les gens pensent souvent que c'est ennuyant, et ça, c'est leur première erreur. Ça fait partie de tous les emplois, de toutes les facettes de la vie sur cette planète. C'est un fait. Comment tu penses qu'on a établi la longueur d'une journée? Comment on connaît l'âge de la Terre? Quel est l'âge de l'univers? Combien de personnes ont existé? Ou comment bâtir un pont ou un gratte-ciel? Ou quelle distance il y a entre les étoiles? Comment on s'est posé sur la Lune? Les étoiles elles-mêmes. Pourquoi elles brûlent? Pourquoi les atomes se séparent et se fusionnent? Et tout le reste, c'est que des maths! Hé, les étoiles sont des maths? Quand tu regardes le ciel la nuit, tu regardes la plus grande équation de l'univers. Même quand tu danses, c'est aussi des maths, c'est vrai. C'est quoi le langage de la danse? 1 et 2 et 3 et 4, une valse, c'est quoi? 1, 2, 3, 1, 2, 3, que des chiffres, que des maths. Les maths, c'est la vérité. Elles ne mentiront pas. Elles ne prennent pas en compte tes préférences. Elles sont pures en ce sens.
Y a-t-il quelque vérité dans ce que dit ce personnage écrit par Stephen King et que l'on rencontre dans le film également de Mike Flanagan?
Les maths, c'est le langage de toutes les sciences. Et en soi, ce n'est pas le langage qui permet de comprendre l'univers, mais c'est le langage qui permet de le formaliser. Donc les maths, c'est le formalisme de l'univers. Effectivement, l'astrophysique, c'est des maths. Une fois qu'on a observé, une fois qu'on a collecté des données, une fois qu'on a compris quelles pouvaient être les interactions, après, on écrit des équations. Les maths, c'est la condensation. Les maths, c'est de faire tenir en 3 signes, une petite ligne, des choses qui devraient être décrites en 20 pages, ou 100 pages, ou 2 milliers de pages. Et les maths, pour moi, c'est aussi le remède à l'hyperactivité. Quand on est à l'école et qu'on est obligé de rester assis, les maths posent tellement de problèmes. On a tellement de problèmes à résoudre que c'est un bonheur. C'est comme si on vous offrait en permanence des mots croisés, des sudoku, voilà, hop, toute la journée. Ce qui est pas mal pour les gens qui aiment bien réfléchir, quoi.
J'aimerais bien vous avoir comme prof de maths. Si j'étais un ado, là, qui écoute France Inter.
C'est gentil, je suis meilleur en vulgarisateur qu'en professeur.
Cécile Coulon, vous, quand vous courez, vous parlez de maths un peu aussi parfois, ou ça vous est très étranger, ce domaine?
En fait, on disait au début de cette émission que les maths, il y avait quelque chose de poétique dans l'idée de dire des choses très très complexes avec des moyens très simples. Et il me semble que, comme beaucoup de littéraires, de ceux qui ont fait classe L, ça n'existe plus. Ouais. Mais à mon époque, ma lointaine époque, ça existait. J'ai donc arrêté les maths en seconde et j'étais nulle. J'étais nulle en maths, mais comme je sais que beaucoup de gens ont été nuls en sport et se retrouvent à faire des courses de 200 km à 45 ans, je pense qu'à 45 ans, je serai très douée pour les maths.
Je vous interroge dans 20 ans, enfin je serai mort peut-être, mais je vous interroge dans 20 ans et vous serez agrégé de mathématiques, Cécile.
Mais je l'espère.
Et je donne des cours particuliers à la demande.
C'est voilà. Ça, vous nous écrivez à l'atelier sur la page Facebook.
En courant éventuellement.
En courant. Merci beaucoup d'être venu parler de mouvement, de recherche de la vérité, d'écriture, de marche. Cécile Coulon, votre, encore une fois, très beau roman s'intitule « Le visage de la nuit, il paraît à l'iconoclaste ». On lit votre poésie au Castor Astral et sur votre Instagram, parce qu'on peut aussi publier de la poésie sur Instagram et se filmer en train de la dire. « Après la neige », c'est le premier roman de Frédéric Abergel aux Presses de la Cité. David Le Prince a réalisé cette émission, Marion Guilbeault m'a aidé à la préparer, ainsi que Valentine Chédebois à la programmation musicale et aujourd'hui à la technique, il y avait Théo Delobadère. Samedi, ce sera la balade de Camille à 17h sur France Inter et dimanche à la même heure, le grand atelier du roi du stand-up, Haroun.